Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue, bon dimanche. Mon invité aujourd'hui s'appelle Naoufel Brahimi Ali Mili. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences politiques et vous publiez l'histoire secrète de la chute de Bouteflika aux éditions de l'Archipel. L'anniversaire de la destitution et de la chute d'Abdelaziz Bouteflika est passé complètement inaperçu avec la crise sanitaire mondiale. Hop, zappé, oublié.
C'est la Covid qui a fait ça et beaucoup de choses. Et surtout, le président Tebboune avait une feuille de route qui a été retardée. Et l'anniversaire de la chute de Bouteflika, parce que les gens ont oublié Bouteflika. Et tout le monde a décidé...
Non, vraiment.
Et tout le monde a décidé que les 20 ans de Bouteflika n'existaient pas et tout le monde est devenu démocrate.
En Algérie.
En Algérie.
Ce qu'on appelle la démocratie de la 25e heure.
Oui.
Ça marche pour beaucoup de choses.
Et pas uniquement en Algérie. La Tunisie, les Benalistes qui sont devenus démocrates, les Libyens, n'en parlons pas des Libyens et des Égyptiens. Tous les pays du printemps arabe ont décidé qu'ils sont devenus démocrates.
Bon, alors, on va pas beaucoup parler de Tebboune, parce que c'est pas le sujet de votre livre. Alors, j'adore les titres de livres où il y a l'histoire secrète. Hein. C'est vrai que l'histoire secrète, c'est toujours mieux que l'histoire d'eux.
Oui,
parce qu'on s'imagine
évidemment
qu'il va y avoir quelques secrets. Alors, il y a des secrets. Il est où le président, l'ancien président algérien aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a comme nouvelle de lui?
Il continue sa 5e année de confinement. Il a commencé le confinement avant la Covid. Et là, il continue. Donc il est toujours vivant, il est toujours à Zeralda, ce Versailles-sur-Mer.
Alors il faut expliquer, parce que ça je l'ai appris dans votre livre. Alors, j'ai cherché des photos, j'en ai pas trouvé. Il y a une photo aérienne de Zeralda. Au début c'était un complexe qui appartenait à la Sonatrach.
Oui, qui appartenait à la Sonatrach. Et avec le scandale de la Sonatrach 1, ce sont les services secrets à l'époque président Taoufir qui l'ont repris. C'est devenu une...
À disposition d'eux.
Et après, quand il y a eu le Val-de-Grâce saison 2, Taoufir a décidé de mettre ce complexe-là, qui a été réaménagé pour un handicapé, à Bouteflika. Il est resté là-bas. Et là, bon, je ne raconte pas dans mon livre, parce que ce n'est pas...
Racontez ce qui n'est pas dans votre livre, oui, ça m'arrange, voilà. Moi, si vous voulez bien.
Oui, voilà. Et au mois d'octobre, il y a eu un cadre de la présidence de la République algérienne, au mois d'octobre 2019, hein, qui a décidé de retirer le personnel de la présidence de Bouteflika et pour le mettre ailleurs. Et là, l'homme fort de l'époque, Gaït Salah, a piqué sa crise.
Qui était aux manœuvres à l'époque, c'était juste avant la présidentielle.
Voilà, qui était aux manœuvres. Il a rétabli le personnel de la présidence et il a dit, voilà, on ne touche pas au président.
D'accord. Donc, il a aujourd'hui le même personnel qu'il avait quand il était en fonction, en gros.
Oui. Hein? La seule chose qui a changé, c'est le personnel soignant chinois qui est parti. C'est parce que Saïd Bouteflika, qui est le régent de Zeralda,
qui est le héros de votre livre,
hein. Oui. A imposé un personnel chinois avec un seul traducteur chinois, arabe ou chinois français, peu importe, qui ne s'adressait qu'à lui. Sachant que il y a bien sûr les Chinois sont des gens intelligents, surtout sur les sujets sensibles. Tout le personnel médical était au moins bilingue, mais ils ont joué le jeu. Ils ont laissé l'interprète officiel parler à Saïd Bouteflika, parce que quand on dit Bouteflika, il faut préciser lequel.
Hein. Oui. Vous êtes en train de nous dire que l'ancien président algérien n'avait pas de médecin algérien?
Non, il avait un médecin algérien lors de ses sorties dans les hôpitaux français, essentiellement Val-de-Grâce 1 et 2. Et ensuite, il faisait confiance à personne.
Bon, alors ce que je voulais vous faire dire là sur Zeralda, c'est qu'en fait, ça me paraît complètement improbable, mais que c'est un architecte américain qui a refait à Zeralda la copie d'un chalet à Aspen dans le Colorado. Alors, oui. C'est d'un goût improbable.
Oui, c'est ce que j'ai écrit. Tout s'achète, sauf le bon goût.
Mais j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble.
C'est impressionnant. C'est-à-dire...
Vous l'avez vu, vous, déjà?
quand on passe devant, c'est bunkérisé.
Mais on peut pas, c'est l'autoroute.
C'est l'autoroute sans sens interdit. Bon, voilà, j'étais avec quelqu'un qui a bravé le sens interdit. Et il y a une garde, c'est bunkérisé. Mm-hmm. Le bunker d'Hitler à côté, c'est Disneyland.
D'accord. Bon, il y a une piscine olympique, il y a quoi?
Il y a une piscine air libre, une piscine couverte.
Ouais.
Il y a ça. Il y a bien sûr salle de sport. Il y a tout le personnel. Il y a un bâtiment qui est réservé au personnel. Il y a des sous-sols qui sont réservés pour les membres de l'administration parce que c'est une administration. Il faut rappeler qu'il a fait son 4e mandat à Zeralda. Mm. Et c'est là où il recevait les chefs d'État. Et quand il y avait des rumeurs sur son état de santé qui n'était pas fabuleux, il faisait venir des chefs d'État. Il a même envoyé un avion jusqu'à Nice pour ramener le roi de les autos. Comme si les relations entre l'Algérie et les autos étaient un enjeu fondamental.
Enfin, techniquement, il est venu pour la photo, le roi du les autos.
Oui, parce que le règne de Saïd Bouteflika, qui gouvernait au nom de son frère, c'était clic-clac, merci Kodak. Donc, il donne des preuves de vie, pour reprendre un langage des preneurs d'otages. Quand on prend un otage, il faut donner des preuves de vie. Lui, il a pris la prise dans son otage, il donne des preuves de vie à son frère. Et le fabuleux, le meilleur coup qui a été fait, c'est le 15 juin 2014, je crois, où, non, 2015, où François Hollande s'était rendu pour la seconde fois en Algérie, où il a parlé d'alacrité.
Alors oui, alors le président français est en Algérie. Alors, j'avais justement, ça fait partie des bonnes pages que j'ai cornées. Mais pourquoi finalement, pourquoi François Hollande, qui a quand même oublié de voir les choses, fait une déclaration. Il fait une déclaration sur son entretien avec Bouteflika.
Oui.
Et qu'est-ce qu'il dit du président qu'il a vu?
Il parle d'alacrité et il rajoute « Rares sont les chefs d'État qui ont sa lucidité sur la vision du monde. »
Ouais.
Bon. Donc, mais il a fait ça. D'une part...
Il y a toujours de l'humour chez Hollande. Alors, il faut décoder, il faut voir ce qu'il veut dire.
Oui, oui. Mais si humour il est involontaire dans ce cas-là. Parce qu'il y a les constantes de la diplomatie française. On préfère l'immobilisme qu'ils confondent avec stabilité. Ils appellent ça, dans le langage diplomatique, ils appellent ça stabilité. Or, c'est l'immobilisme. Mmh. On sait à qui on parle. Et en plus, avec le système Bouteflika, ils avaient, comme on dit pour certains shampoings, deux en un. Ils avaient deux présidents pour le prix d'un.
Ouais, sauf oui, vous parlez des Français.
Oui, des Français.
Vous parlez de la diplomatie française.
Oui.
Alors, par contre, Manuel Valls, quand il est Premier ministre,
oui.
c'est le seul qui n'a pas la langue de bois.
Non, Manuel Valls a tweeté, a fait un mauvais tweet.
Ben non, il a fait un bon tweet, il a dit la vérité.
Oui, mais il est sorti des clous. Et avant, parce qu'il faut dire, la visite de Valls, c'était son tweet. Et après, il y a eu François Hollande qui a fait de l'humour volontaire cette fois-ci. C'était, circonstance aggravante, c'était un dîner du CRIF. Il a dit, Manuel Valls est rentré sain et sauf d'Algérie. Ça a été mal perçu. C'est qu'on s'aggravant, dîner du CRIF. On parle d'Algérie en faisant de l'humour. Et là, François Hollande fait ce qu'il fait de temps en temps avec splendeur. Il s'est tiré une balle dans le pied au regard des relations franco-algériennes. Bon. Et ensuite, c'était...
Il a fallu ramer.
Voilà, il a fallu ramer. Et ils ont bien ramé. Ils ont eu des compensations financières... Il y a eu le contrat d'une société du CAC 40 que je nomme pas. Ils ont payé...
Ah, mais vous dites qu'il y a un bakchiche de...
60 millions d'euros.
De beaucoup d'argent.
60 millions d'euros.
Je peux savoir qui c'est le ministre qui a touché le bakchiche?
Il est en prison.
Non, mais si vous le savez, il faut le dire. Parce que
Non, vous dites... Il est en prison. Pourquoi je le dis pas? Il n'a pas été jugé sur ça. Il était jugé sur autre chose. Donc, il n'a pas été jugé sur ça... Ça, c'est à la justice algérienne de faire son travail. Ils ont toutes les preuves. Mais il faut aussi dire, dans cette campagne anticorruption, ça me rappelle l'opération main propre italienne, où ils ont décidé que les enquêtes s'arrêtent dès qu'il y a un étranger touché. Et l'opération italienne, le seul étranger touché, c'était la banque Verne. Après, ils ont rétropédalé.
Alors, sur le contrat français, c'est qui le français qui a touché ?
Société du CAC 40.
Pff, c'est pas drôle. C'est même pas dans votre livre.
Oui, oui.
Qui va le voir aujourd'hui, Bouteflika ? Est-ce qu'il y a des gens qui continuent à le voir ou pas ?
Aujourd'hui, son frère Nasser, qui a pris sa retraite, visite les deux Bouteflika. Il part à la prison de Blida voir son frère Saïd et voir son frère, l'ancien président. Donc, c'est la famille très proche. Ses anciens collaborateurs tout d'abord, sa garde rapprochée est en prison. Donc,
d'accord.
Voilà.
Il y a une sœur, Zoher ?
Oui, qui vit avec lui.
Qui vit avec lui ?
Oui.
C'est la seule du clan qui vit avec lui aujourd'hui ?
Oui,
c'est la dernière.
Oui,
d'accord.
C'est la dernière.
Et personne ne va le voir, donc ?
Non, personne ne va le voir. C'est sa famille. Il a des neveux qui ont grandi, donc ils vont le voir. Ils sont autorisés. Il est confiné. Il n'est pas enfermé. Bon, il est confiné depuis 5 ans. Hein.
Ce qu'on sait, c'est qu'il a voté au présidentiel, aux dernières présidentielles. Enfin, oui. C'est Nasser, son frère, qui a voté pour lui.
Et ce jour-là, j'étais à Alger, j'ai vu à la télévision. C'est-à-dire, il a voté dans une école du quartier où il vit, quartier d'Alger, El Bière. Et là, ces élections se sont bien déroulées. Il n'y a pas d'incident. En Kabylie, personne n'a voté, donc il n'y a pas d'incident. Et dans cette école d'El Bière, il y avait 3 caméras qui attendaient son frère. Qui montre la procuration. Il a donné une procuration à son frère qui montre la procuration. Et bon, c'est à l'époque, Gaïd Salah était vivant, ça faisait partie du deal. C'est-à-dire, officiellement, Bouteflika a démissionné. Il n'a pas été démis, il a démissionné. Et en plus, Bouteflika approuve les élections. La preuve, il a donné une procuration pour voter.
On sait pour qui a voté le frère ou pas ?
On devine.
Non, pardon, j'ai une question.
J'étais pas avec lui dans l'isoloir, mais j'imagine qu'il
parce a voté. Parce que Tebboune, c'était quand même une demi-surprise, quand même.
Oui, Tebboune, c'était la surprise pour deux raisons. D'abord, quand Tebboune était Premier ministre pendant 2 mois et 21 jours, c'est le premier qui a dénoncé la corruption, et c'est lui qui a mené campagne contre Ali Haddad, le patron des patrons algériens. Bon... Il a sauté, la campagne anti-corruption s'est arrêtée avec son départ. Bon. Et ensuite, il y a toute une dynamique de l'ancien système qui a voulu faire croire, mais moi j'étais tombé dans ce piège-là, que le président sera un jeune ancien ministre de la Culture, son nom est Mihoubi.
Je vous jure que dans tous les gens qui disaient
oui.
qu'ils savaient,
oui.
bah, c'était tous qui disaient ça. Ouais, c'est joué, c'est Mihoubi.
Oui, c'est parce que il y a eu un storytelling fabuleux. Il y a eu des membres de la campagne électorale de Tebboune qui sont ralliés à Mihoubi. Il y a le parti historique FLN, bon, qui est un parti qui a une seule fonction, une fois tous les 5 ans, c'est adouber le président sortant. Et là, les gens du FLN ont adoubé Mihoubi. Donc, on y a cru. Et... le candidat pressenti s'est retrouvé à la 4e position sur 5 candidats. C'est vraiment le bas du bas du podium.
Et alors, comment vous l'expliquez ça ?
C'est que Gaïd Salah, qui était l'homme fort, a voulu que la campagne anticorruption se poursuive. Et avec Mihoubi, c'est là où il y a le mélange des genres. La loi ne l'interdit pas. J'étais à Alger, j'étais au tribunal, le procès de l'ancien Premier ministre Ouyahia. L'un de ses avocats était le directeur de campagne de Mihoubi. C'est pas interdit par la loi. On peut être avocat d'un présumé innocent, à l'époque il n'était pas encore condamné, et diriger une campagne. Mais comme mélange des genres, on fait pas mieux.
C'est passé à la tchouchouka.
Oui, oui, oui.
Ou pas.
Oui, bien sûr, mais c'était...
Alors, votre livre s'appelle « L'histoire secrète de la chute de Bouteflika ». Alors, c'est vrai que vous deviez faire une campagne au moment oui. de l'anniversaire,
oui.
qu'on a été rattrapé par la Covid. En tout cas, oui. vous êtes notre invité jusqu'à 13h sur Beurre FM.
Merci. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et le Book Club a lu pour vous « Histoire secrète de Bouteflika ». aux éditions de l'Archipel. Naoufel Brahimi El-Mili, vous êtes avec nous, vous êtes docteur en sciences politiques, et vous publiez voilà donc cette histoire que vous montrez, puisque l'émission est filmée. Alors, c'est un page-turner, hein, pour tous ceux qui aiment l'Algérie, vous allez pas le lâcher, parce qu'il y a quand même pas mal d'informations croustillantes. Moi, j'ai appris le lien particulier qu'il y avait entre les deux frères Bouteflika, oui. En tout cas entre Saïd et Abdelaziz. Je ne connaissais pas cette histoire. Oui. Vous racontez que dans les années 80, lors de sa traversée du désert, Abdelaziz Bouteflika connaît de sérieux problèmes de santé. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Bouteflika, depuis toujours, avait un problème de rein. Et avec l'âge, ça ne s'est pas amélioré. Bon, il était très jeune, ça ne s'est pas amélioré. Et c'était dans une clinique suisse. Il fallait trouver un donateur du rein. Bon, je ne suis pas médecin, je m'étais documenté. Et en plus, j'ai une source fiable à 300%. Et c'était à l'époque, je l'avais appris un ou deux ans plus tard. Et c'est Saïd Bouteflika qui a donné le rein, parce qu'ils sont compatibles, à son frère. Et il y a eu depuis lors une relation fusionnelle. Et même Bouteflika, dans sa traversée...
Enfin, parce que vous racontez qu'en fait, il y avait quand même une urgence, on ne trouvait pas de donneur. Ça s'est quand même fait dans l'urgence, et dans une urgence vitale.
Et le génie de Saïd Bouteflika, il n'a pas hésité.
Il l'a médiatisé, ça?
Non.
Non, parce que franchement, moi, je l'ai découvert.
C'est parce que la santé du président a toujours été un secret défense. Non, mais il faut dire que Bouteflika, dans sa trajectoire de vie, il a un appétit de pouvoir. Et c'est, chez eux, tout est secret, sauf peut-être la météo de la veille. Et son frère Saïd, que j'avais connu quand il était étudiant à Paris, moi aussi à Paris.
À la Closerie des Lilas?
Non. À l'époque, c'était un bar qui n'existe plus, place de la République, c'était le Thermomètre. Ce bar n'existe plus.
Ça ne s'invente pas.
Oui, voilà. Et il n'a pas hésité, il a donné le rein à son frère. Bon, son frère s'est bien rétabli, s'est trop bien rétabli, la preuve. Il a gouverné, ils ont gouverné pendant 20 ans. Et l'arrivée de Saïd au pouvoir, c'est une arrivée sournoise. Dans l'organigramme de la présidence, il était avant-dernier, c'est-à-dire il était conseiller en informatique. C'était son seul titre officiel. Et quand il y a eu le Val-de-Grâce saison 1, une sérieuse alerte, officiellement c'est une hémorragie gastrique, j'ai oublié le terme médical, on a trouvé une maladie pas très sérieuse.
Ce que vous appelez saison 1, c'est celle avec Cheb Mami?
Oui.
C'est celle-là, d'accord. Bon,
voilà, ouais. Et bien sûr, et chacun sait que Cheb Mami qui...
Saison 2, c'est les Invalides.
Oui, saison 1, c'est Cheb Mami qui mériterait un prix Nobel de médecine pour ses recherches en gynécologie. On connaît la suite.
Mais en tout cas, qui rassure les Algériens sur l'état de santé de leur président.
C'est le seul. Parce qu'il n'y avait pas de ligne officielle.
Et saison 2, donc, c'est...
D'abord Val-de-Grâce, ensuite les Invalides.
C'est 81 jours d'absence d'Algérie.
Oui, d'Algérie, et 81 jours d'absence des radars.
Et ça, vous racontez vraiment bien les coulisses de cette période dans votre livre. Et là, on découvre que les services secrets français ont sonorisé...
Évidemment.
Tous les appartements, oui, où se trouve le président algérien, son staff, et vivent en direct la séquence.
Et c'est pas compliqué, parce que avant de quitter le Val-de-Grâce, la présidence algérienne, plutôt Saïd Bouteflika, a voulu les Invalides. Il fallait rénover. L'Algérie a payé une petite vingtaine de millions d'euros parce que intervenir sur un monument classé rapidement, sans appel d'offres. Et ça s'est fait assez rapidement.
C'est l'Algérie qui a payé les rénovations.
C'est l'Algérie qui a payé.
D'un pavillon aux Invalides. Attention, oui. C'est pas la rénovation
non,
des
d'un
Invalides.
Pavillon. Et quand on fait ces travaux, on sait, depuis la chute du mur de Berlin, qu'il y a toujours des plombiers, pour reprendre une expression consacrée par le Canard Enchaîné. Et Bouteflika a vécu son confinement aux Invalides avec son et lumière.
Bon, alors votre livre commence par, commence comme un livre policier. On est en octobre 2018. Un général est mandaté pour donner au service français.
Oui.
Avec un sérieux, un curieux officier de renseignement français. Donc là encore, il n'y a pas de nom. On ne sait pas qui c'est.
Il ne m'a pas autorisé.
Mais vous l'avez rencontré?
Oui.
Mais quand vous dites un officier de renseignement, il a un titre de quoi à peu près?
Il n'a pas de titre.
Bon, donc...
Oui, il ne m'a pas autorisé.
On a un général algérien,
oui,
qui demande à rencontrer un membre des services secrets français et qui lui dit, j'ai une information pour toi, c'est, oui, du lourd.
Oui, il savait qu'il allait le rencontrer. C'était un rituel. Les anciens de la formation qui se trouvent aux Invalides avaient un rituel, il y avait beaucoup d'Africains. Et il le prend à part et lui dit, voilà, le nouveau président algérien sera... c'est un général à la retraite, Ali Guediri.
Bien. C'est un tuyau en or qu'il avait.
Hein, oui.
Alors, on découvre que ce Ali Guediri, il est soutenu, enfin cornaqué par
Taufik,
celui qu'on appelle le général Taufik.
Oui, voilà. Généralissime, général du corps d'armée.
Mais qui est, pas en retraite, mais en tout cas qui est en disgrâce depuis 5 ans.
Oui.
À ce moment-là.
Sa retraite moyennement volontaire date du mois d'août 2015.
Donc là, lui, il n'est plus aux affaires.
Il n'est plus aux affaires, mais, pardon, le système Taufik, 23 ans au sein des services, c'est un système, c'est comme le Concorde. Quand il traverse l'Atlantique, le moteur reste chaud longtemps après. Donc, il y avait cette chaleur du système Taufik.
Alors, un financier dans l'équipe aussi?
Oui.
On est sûr de ça ou pas?
On est sûr parce que...
Issad Rebrab,
oui,
donc vous le dites.
Oui, je le dis.
Donc
oui.
L'homme le plus riche d'Algérie, hein, en tout cas l'industriel le plus influent de,
oui,
d'Algérie, le patron de la Cévital.
Voilà, il est riche et en plus il est intelligent.
D'accord.
Les deux ne vont pas toujours ensemble, donc, dans plusieurs pays.
Hein. Lui, il décide de rouler pour oui. Guediri ou pas?
Oui, parce que, ce que je raconte, Taufik voulait être candidat. Il a réalisé que c'était compliqué. Il propose à Rebrab, veux-tu être candidat? Rebrab, intelligent, décline. Et il trouve le général Guediri, qui est intelligent, qui a les diplômes, à la retraite, présentable. Et il y a un financier pour sa campagne, et Taufik derrière, qui a se présenté. Et ce qui transparaît dans le livre, c'est que la révolution des vendredis a été aussi moyennement spontanée. On a préparé le terrain.
Oui, mais enfin, vous expliquez quand même, c'était pas spontané, mais ça, ouais, ça a surpris tout le monde.
Oui, c'est ça. C'est parce que quand il y a eu le premier 22 février, et là, ça devenait compliqué. Le discours officiel, la constitution, qui est toujours en vigueur, qui va être changée, n'interdisait pas au président de se représenter. Donc, formellement, ils étaient dans la légalité.
Constitution que Bouteflika avait
modifiée
pour être élu à vie.
Voilà, être élu à vie.
Bon.
Voilà. Et ensuite, après le premier vendredi, il y a des émissaires algériens du monde du renseignement qui voient des officiels français. Ils leur ont dit cette expression-là. Nous avons résisté 7 années devant le terrorisme. On tiendra 7 vendredi, sachant qu'après 7 vendredi, c'était l'élection présidentielle.
D'avril,
qui n'a jamais eu lieu. Donc, on était parti, on va résister. Et ensuite, à partir du moment où on lance une boule de neige, on ne contrôle plus l'avalanche.
18 avril 2019. Donc ça, c'était la date auquel devaient se tenir les élections. Dans votre livre, ce qui est très intéressant, c'est vous expliquer quel rôle les services secrets français jouent dans le quatrième mandat de Bouteflika et comment il y a eu un plan de Paris qui a été appliqué par Saïd Bouteflika à la lettre.
Oui.
Et ensuite, vous expliquez comment Saïd Bouteflika, quand il constate que son frère ne pourra pas être candidat à un cinquième mandat, quelles sont toutes les stratégies qu'il va vouloir à ce moment-là élaborer pour faire durer au maximum le temps de pouvoir d'Abdelaziz Bouteflika. Parce que lui, dès le départ, il se dit, il ne faut pas qu'il y ait d'élection le 18 avril.
Oui, il était contre. Ce qui s'est passé, il a commencé sa campagne à l'automne 2018. il a vu...
Vous l'avez raconté, donc 26 septembre 2018, ouais. Conseil des ministres ouais. en présence de Bouteflika, c'est rare, hein,
oui, oui,
conseil des ministres, ouais. Et des ministres en présence, ouais. et là tout le monde réalise qu'il ne pourra pas y aller.
Oui, ça, le secret était bien gardé, parce que le conseil des ministres, être ministre sous Bouteflika, c'est être scanné et fiable. Et ensuite, Saïd Bouteflika a rencontré certains chefs de parti. En Algérie, il y a les partis qui sont un petit peu ce que j'appelle les partis poules. Parce que les partis poulets, parce que ça a un côté auxiliaire de police. Et ça a été très vite.
Les partis poulets. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ceux qui font circuler les informations rapidement.
Oui, ils font circuler. Et c'est des partis création ex nihilo. On a vu.
Bon, alors Abdelrazak Macri va être très content avec vous.
Oui.
Puisque j'imagine que lui, pour vous, il fait partie d'un palais, d'un
non,
parti poulet.
Lui, l'histoire de son parti est très différente. On a fait le parti Hamas pour remplir le vide laissé par le Front islamique du salut qui a été banni. Donc lui, l'histoire de son parti est très différente. Mais quand je parle le meilleur parti poulet, c'est le RND. C'est un parti créé quelques semaines plus tard, il remporte les élections législatives. D'où
il fait partie de la coalition au pouvoir.
Oui. D'où la blague algéroise, c'est un bébé qui est né avec ses moustaches. Donc c'est ça le parti poulet. En plus, il y a les micro-partis, il y a les nano-partis. Parce qu'il faut descendre dans les soutes.
Le premier que contacte Saïd Bouteflika, ce que vous dites dans votre oui. livre, hein, c'est Abderrazak Macri. Donc lui, il est le patron du MSP,
oui.
donc voilà, émanation du Hamas. Et qu'est-ce qu'il lui vend comme plan? Parce qu'il lui vend un plan.
Il lui vend un plan. On reporte les élections, une grande conférence nationale. Et Macri n'était pas convaincu. Il a rempli le job. Il a contacté. Il y a eu beaucoup de résistance. Et ensuite, Saïd Bouteflika, il lui dit, si c'est pas ce plan-là, ça sera soit Gaïs Salah président, soit Ahmed ou Yahya président. Ensuite, ça n'a pas marché. Et après, c'est une personne qui m'a raconté, quand Macri va voir Jabala, qui est le président du parti Nahda, un autre parti islamiste, Jabala lui dit, si ce plan est appliqué, je fais sortir les gens dans la rue. L'hypothèse des manifestations était présente dès l'automne 2018. Mais personne n'a pris ce signal-là au sérieux. Et après, celui qui a sifflé la fin du match, c'était le dernier Conseil des ministres, le 28 décembre 2018, où Gaïs Salah, comme vice-ministre de la Défense, prend la parole. Il dit « il faut rester dans la Constitution, c'est-à-dire pas de report d'élection ». Il a dit, c'est-à-dire, le plan de Saïd ne va pas marcher. Et c'est là où il y a eu une première brèche visible entre Saïd Bouteflika et Gaïd Salah. L'ancienne brèche qui était restée secrète ensuite quand des gens ont été emprisonnés, les langues se sont déliées, c'était Sellel, le Premier ministre. Sellel va voir Gaïd Salah, il lui dit, Bouteflika pense à toi, grand moujahid, pour prendre le ministère des anciens moujahidines. Et Gaïd Salah lui répond, lequel des Bouteflika? Et là, Sellel raconte à la personne qui m'a raconté, il dit, à ce moment-là, je m'étais senti tout petit. Et après, Gaïd Salah, pour bien clarifier les choses, il envoie un général, que je n'ai pas nommé, bien sûr, parce que j'ai pas été autorisé, qui va voir Saïd à Zeralda. Il y va. La garde présidentielle lui interdit l'accès. Les deux étaient armés. Ensuite, le général de la garde présidentielle, Ali Ben Ali, autorise l'accès. Et là, il y a eu le deal. Il lui dit, le général-major de corps d'armée, Gaïd Salah, te dit, t'occupes pas de l'armée, je m'occupe pas de politique.
AGS. C'est son acronyme, hein,
Getsala. Oui, AGS.
D'ailleurs, votre livre commence, je me suis trompé tout à l'heure, oui. avec l'enterrement,
oui.
hein, avec la mort, avec le décès oui. de Gaïd Salah, qui apparaît effectivement comme la clé de voûte de toute cette période, oui. mais qui disparaît quand même au lendemain de l'élection du nouveau président algérien.
Oui.
Je ne sais pas si ça vous pose des questions.
Non, non. Bien sûr, les complotistes disent toujours que c'est... Mais non, déjà, ses problèmes de santé étaient anciens. Et ensuite, il a vécu 2 mois de stress incroyable.
Bon, l'histoire officielle, secrète, pardon, de la chute de Bouteflika, l'éditeur, c'est l'Archipel, et on en parle jusqu'à 13h.
Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà l'histoire de l'Algérie contemporaine, hein, l'histoire secrète de la chute de Bouteflika. On en parle aujourd'hui, enfin en tout cas c'est le livre dont on parle aujourd'hui, son auteur est là, Naoufel Brahimi El Mili. Donc beaucoup beaucoup d'informations. Vous citez beaucoup de noms, il y a aussi beaucoup de noms que vous ne, vous ne citez pas.
Hein. Et pour cause.
Alors on voit le rôle de Saïd Bouteflika finalement, et on voit comment depuis le Val de Grâce 2 c'est lui l'homme fort de l'Algérie.
C'est lui l'homme fort. Il a commencé Val de Grâce saison 1, il a commencé et après il est devenu l'homme fort et ils ont créé un système où le régime politique reposait sur trois pieds, ce qui était inédit. L'armée, bien sûr, la présidence et la technostructure et les oligarques. En Algérie, jusqu'à l'ère de Bouteflika, pour faire des affaires, fallait être adoubé par un ministre ou un officier. Et avec Saïd Bouteflika, pour devenir ministre ou officier supérieur, fallait être adoubé par un oligarque.
C'est-à-dire qu'ils n'existaient officiellement pas avant.
Non, avant, il ne sait pas. Quand on voit, je prends quelqu'un presque par hasard, Ali Haddad. Dans les il est
son procès. C'est le patron des patrons algériens, on va dire.
Son procès est encore en cours. Quand on voit son carnet de commandes étatique, ça représente le PIB du Malawi en 2018. Bon, le Malawi, c'est pas le pays le plus riche d'Afrique, mais quand même. C'est son carnet de commandes.
De la part de l'institution d'État algérien.
Oui.
Alors, Haddad, il y a une anecdote dans votre livre. Là, vous racontez comment il tente de fuir l'Algérie parce qu'il a chaud aux fesses. Et il tombe dans un piège.
Oui, c'est un délit provoqué parce que on avoue... C'est parce que...
C'est l'armée.
Oui, c'est l'armée. Ils ont décidé de mettre fin aux oligarques parce que les oligarques avaient les moyens de financer... une contre-révolution, parce que ce qui s'est passé, même si c'est pas spontané, c'est une révolution. Ils avaient les moyens. Et Gaïd Salah a décidé d'arrêter les oligarques. Il y avait parmi eux 3 qui étaient à l'étranger. Pour ne pas les effrayer, ils devaient rentrer à Alger. Ils avaient tous des jets privés, sauf Rabrab qui voyageait toujours dans des vols commerciaux, sur des vols commerciaux. Et Ali Haddad, on lui a dit, il y a l'ISCN, qui est l'interdiction de sortie du territoire national. Il lui dit, mais on s'arrange, au poste de police, tu payes tant, par Tunis, par voie terrestre. Il prend sa voiture, il s'arrête à Constantine, qui est sur le chemin, il achète un billet d'avion, Constantine-Paris.
Le gars qui croit rusé.
Oui, il croit rusé. Il prend un vol Air Algérie, sachant que les vols Air Algérie sont, en temps réel, communiqués à une structure... des services. Il continue et là, il se fait arrêter, pas par la police, mais par un douanier. Donc, c'était le délit, c'est 4 000 et quelques euros, tant de dinars, et avoir 2 passeports, alors qu'il était résident britannique. Et ces passeports étaient délivrés, bon, on était sur un délit. Et là, je rappelle, même Al Capone était arrêté pour une fraude fiscale. Et les autres oligarques qui étaient à l'étranger sont rassurés, oui, après tout, Ali Haddad va s'en sortir. Ils sont rentrés. Et un geste de survie, Ali Haddad envoie un dernier SMS à Saïd Bouteflika. Il ne lui a jamais répondu pour lui dire « je suis bloqué ». Et là, il était arrêté. Après, il était arrêté par la police. Ce n'était pas les services pour ne pas effrayer.
Mais il est tombé dans un piège. Hein. C'était un piège qui lui a été tendu. Il est tombé dedans.
Il est tombé dans un piège.
Pour vous, Rebrab, c'est un oligarque.
Il a construit, il a bâti un empire. C'est parce que c'est un bâtisseur, il est intelligent. Bien sûr, quand on fait des affaires à ce niveau-là en Algérie, la légalité n'est pas scrupuleusement respectée toujours. C'est comme l'immobilier dans le Var il y a 30 ans. Bon, il a été arrêté sur...
Mais est-ce que c'est un oligarque ? Est-ce que vous le mettez
oui.
dans
la... Oui, sauf que en 2014, il était contre le quatrième mandat. Et quand le patronat a adoubé son mandat, il a démissionné. Donc, il a pris des positions politiques, on lui a fait payer. Le clan Saïd Bouflika a essayé de démanteler son empire. On lui a fait de la concurrence sur ses niches d'affaires. Mais bon, et aujourd'hui, il a purgé sa peine de prison. Il a été condamné avec confusion des peines. Il est sorti, il est libre et il continue. Il vit toujours en Algérie.
Vous racontez ses liens avec, avec le président Macron, hein, français.
Oui, bien sûr. Ces liens avec la France ne sont pas nouveaux. Pendant le terrorisme, il a acheté une affaire en Bretagne où il a lancé la volaille halal, etc. Bon. Et ensuite, et c'est là où les réseaux français ont bien fonctionné, quand... comment s'appelle-t-il le ministre du redressement industriel, Arnaud Montebourg, élu de la Saône-et-Loire, avait une société en difficulté. Il fallait sauver 200 ou 300 d'emplois. C'était Robrap qui était venu. Ensuite, Macron à Bercy, il y avait la marque Brandt, et c'est Robrap qui est venu le sauver, et là on parle. Et après Macron président, il y a eu dans le Nord un projet pour créer 1000 d'emplois, un millier d'emplois, etc. Bon. Et c'est là où Macron, lors des célébrations de la fin de la Première Guerre mondiale, a délocalisé un conseil des ministres avec un agenda serré. Il a rendu visite au projet de Rebrab, c'est-à-dire il y a eu des affiches, il n'y a rien d'investi, des affiches, des logiciels, des trucs Excel, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire. Et c'est passé à la télévision.
Ouais.
Française.
Oui, et Macron, candidat à l'élection présidentielle française, va en Algérie en visite.
Oui.
Il va au dîner organisé par
Rebrab.
Et il y a cette fameuse déclaration à la télévision qui va secouer, qui marque sa visite.
Sauf que cette déclaration à la télévision, j'étais assez imprécis dans mon livre.
Avant. Sur la colonisation.
Oui, sur la colonisation. Avant que Macron ne se rende en Algérie, il a envoyé un avocat proche de François Hollande à l'ambassade d'Algérie à Paris. À l'époque, il y avait un chargé d'affaires brillant et la réunion devait durer 20 minutes, elle a duré 2h30. Et sur les 2h30, on a parlé pendant 2 heures sur la colonisation. Et ils ont parlé 20 minutes sur le Sahara occidental. Et là, Macron a reçu le message. Il a dit que la colonisation française d'Algérie est un crime contre l'humanité. Mais la matrice, c'était cette réunion en amont à l'ambassade d'Algérie.
Ça excite moins les foules, hein, d'ailleurs. Ni la diplomatie française, le Sahara occidental.
Oui, bien sûr.
Parce que la politique étrangère n'est pas alignée sur ces positions-là.
Non, mais le Sahara occidental, c'est pas la politique étrangère. C'est la vie de la rive gauche, qui vit à Marrakech. C'est le microcosme parisien. Faut pas y toucher. Parce que la Memounia Hôtel à Marrakech, c'est le ministère bis des Affaires étrangères marocaines.
C'est plus la Mamounia, mais ça reste quand même...
Oui, ça a été retapé.
Ça a été retapé,
bon. Les chambres sont plus petites,
mais bon,
les salles de bain sont plus grandes.
Mais ce qui veut dire qu'effectivement, il y a une autre diplomatie qui se fait. Dans votre livre, on apprend qu'au cours de son dernier mandat, le président algérien s'est rendu à l'hôpital en Suisse, mais ça, ce qu'on sait régulièrement. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il est allé en Allemagne, en Angleterre
et aux États-Unis.
Transporté
par un avion médicalisé émirati. Et là où il a enfreint toutes les règles de sécurité, il avait la protection la plus légère au monde. Son chiffreur qui était avec lui, c'est tout.
Ça, c'est vrai que ça, c'est pas beaucoup sorti, ça.
Oui, surtout là où on a tout fait pour étouffer, c'était pourquoi je parle de son séjour en Allemagne. Ça s'est passé lors de la prise de l'attaque, de la prise d'otage à Tighenturin, In Amines, ce complexe pétrolier gigantesque. Et c'est là où tous les chefs d'État, parce qu'il y avait plusieurs ressentissants, ont essayé de l'appeler. Il était aux abonnés absents.
Et il était sur un aéroport à Genève.
Oui, et ensuite, dans un hôpital en Allemagne, et les Allemands ont joué le jeu.
Sur la dernière année, alors bon, effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. Les questions, pour qui roule Nekaz, Rachid Nekaz? Vous arrivez à répondre à cette question? Lui, il roule pour lui-même ou il est manipulé par quelqu'un?
Même lui ne pourra pas répondre à cette question. Parce qu'il a un égo tel qui le rend facilement manipulable. Dans la règle du monde du renseignement anglo-saxon, c'est mice.
Ça veut dire
la monnaie.
Monnaie. Je peux pas vous aider. Mice.
Le C, c'est compromission.
Ouais.
Et le E, c'est ego.
Ego.
Voilà. Donc lui, il avait l'ego. Il avait la Son ego était tel qu'il était facile. Et Rachid Nekaz s'est mis sur les radars algériens pendant la campagne de 2014, où il était candidat contre Bouteflika. Et il n'a pas pu faire campagne. À l'époque 2014, Taufik, généralissime, ne voulait pas de quatrième mandat. Et il a trouvé ce perturbateur professionnel. Ensuite, Rachid Nekaz.
Attendez. Oui. Il voulait en faire quoi de Nekaz, Taufik?
Il voulait qu'il perturbe l'élection. Parce que Rachid Nekaz a compris très vite. Rachid Nekaz, c'est le seul des candidats en 2014 qui avait une caisse de résidence en France. En France, il est connu. Ah, si.
Ouais, sur les réseaux, c'est oui, bon, d'accord.
Non, et aussi sur les plateaux de télévision. C'est-à-dire, le moindre procès verbal d'handicap, c'est lui qui le paye devant toutes les caméras.
Voilà.
Donc, il est connu. Et Nekaz s'est joué sur la fibre islamiste. Et la fibre islamiste, ça fait. Et ensuite, là où Nekaz est devenu l'idole des jeunes, heureusement pas tous, c'est quand il a demandé la déchéance de l'Assemblée française.
Pour pouvoir, justement, participer à l'élection présidentielle.
Voilà, oui.
Bon, sauf qu'il fallait une durée de présence de 10 ans sur le territoire pour pouvoir concourir. Voilà, voilà. Ouais.
Mais il est devenu l'idole des jeunes. C'est au moment où tous les Africains, surtout les Maghrébins, parce que proximité, voulaient traverser la mer pour aller en Europe, il fait la traversée au sens contraire, au sens inverse. Et il a renoncé à cette loi française et symboliquement, son dossier a été remis un 14 juillet.
Bon, c'est passionnant. Ils veulent convaincre Zerwal d'y aller. Bon, là aussi, c'est un épisode digne d'un roman policier. Au final, Saïd Bouteflika, il croit jusqu'au bout. Hein. Jusqu'au bout, il croit qu'il va retarder cette élection.
Oui, jusqu'au bout.
Au maximum.
Et à la fin, il a même fait fabriquer une fausse déclaration que j'avais vue.
Qui a circulé sur les réseaux.
Oui, sur les réseaux, que j'avais vue sur un portable, où Gaye Salah était démis de ses fonctions. Et là, Gaye Salah a décidé de siffler la fin du match, c'est-à-dire, c'est sorti dans les réseaux. Il a verrouillé l'agence de presse officielle, il a verrouillé la radio-télévision, il a tout verrouillé. Et ensuite, le deal, c'était, voilà, Bouteflika, il n'y a pas de coup d'État, il démissionne. Et sa démission était orchestrée. C'était la seule fois...
Enfin, il a laissé sortir en beauté, quand même.
Oui, mais par la petite porte, quand même. Parce qu'il y avait une codification. Parce que j'ai vu ça, j'étais sur un plateau de télévision ici à Paris, j'ai vu ça en direct.
Mais tout le monde avait été convoqué, de toute façon.
Tout le monde était convoqué.
Il faut expliquer que les journalistes, là, tout le monde savait ce qui allait se passer.
Oui, et ce qui m'a surpris, à l'époque, entre Paris et Alger, comme maintenant, il y a eu une heure d'écart, donc 21h à Paris, 20h à Alger pour le JT de 20h, et dans l'après-midi, un rédacteur d'une chaîne d'information continue m'appelle, me dit « Est-ce que vous êtes disponible pour être là à 21h ?» qu'est-ce qui se passe? Bon. J'appelle Alger, quelqu'un de bien informé. Il me dit non, il n'y a rien, c'était ça. Mais ils ont orchestré pour qu'on parle de démission et pas de coup d'État.
Ça, c'était, pour Gatsala, c'était important, ça.
C'était important parce que pour lui, pour sa feuille de route, il fallait rester dans la légalité constitutionnelle.
Bon, allez, la suite est dans votre livre, L'histoire secrète de la chute de Bouteflika, aux éditions de Archipel. Merci d'avoir été avec nous.
Merci pour votre
invitation. Merci de nous avoir suivis. Passez un très bon dimanche sur Beurre FM.
Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beurre FM.